ярче солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте разбиться необычайно долго.
Bonjour à tous, c'est Raphaël, vous écoutez le podcast Footballski, voici le programme. Actualité oblige, l'émission du jour sera entièrement consacrée au RB Salzbourg. Joueurs à suivre, choix tactiques, histoire, supporters, lien avec Red Bull. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur le club autrichien qui défie l'Olympique de Marseille ce jeudi en demi-finale aller de la Ligue Europa. Commençons sans plus attendre. Lancé dans une folle fin de saison en championnat, Marseille peut aussi nourrir de doux rêves de sacre européen. Les Olympiens ne sont en effet plus qu'à une marche de la finale de la Ligue Europa, mais pour gravir cette marche, ils devront se défaire du Red Bull Salzbourg. Les deux clubs se sont d'ailleurs affrontés en phase de groupe de la compétition, il y a quelques mois. À l'époque, nous avions déjà sorti un podcast pour vous présenter la formation autrichienne, mais rassurez-vous, pas besoin de plonger dans nos archives pour le réécouter, nous allons justement profiter de cette émission pour tout remettre au clair. Pour cela, je serai accompagné de deux membres de la rédaction de Footballski, deux membres qui suivent avec un intérêt certain le football allemand et autrichien. Il y a Quentin, qui était déjà présent lors du premier podcast de Salzbourg. Salut Quentin.
Salut Raphaël, salut à tous.
Et nous accueillons aussi Julien, qui était intervenu à l'occasion d'une émission dédiée à Leipzig il y a quelques temps. Salut Julien.
Plus Gott, bonsoir à tous.
Formidable. Je précise également que Footballski avait, via son compte Twitter, sollicité ses followers afin que ceux-ci nous posent justement toutes les questions qu'ils souhaitaient sur Salzbourg. Donc il y a eu plusieurs questions et nous allons essayer d'y répondre du mieux possible. Alors Quentin, tu étais donc avec moi en septembre dernier pour le tout premier podcast concernant Salzbourg. À ce moment-là, pensais-tu honnêtement que cette équipe avait les capacités d'aller aussi loin dans la compétition ?
Soyons honnêtes, je pensais vraiment pas que Salzbourg allait aller jusqu'en demi-finale. C'est toujours compliqué quand on a un nouvel entraîneur qui arrive l'été dernier à la place d'Oscar Garcia. On sait jamais quel est le plafond de progression d'une équipe. Et là, pour le coup, avec Salzbourg, tout s'est bien englobé, tout s'est bien fignolé. Et les voilà en demi-finale à une marche, comme l'Olympique de Marseille, de la finale. Donc, c'est vraiment une surprise. Mais comme je l'ai dit, finalement, tout s'est passé idéalement pour Salzbourg. Il n'y a pas eu de problème entre les dernières confrontations avec Marseille et la prochaine jeudi prochain.
Et Quentin, comment est-ce que tu pourrais, toi, expliquer cette réussite ?
Je dirais deux mots, l'état d'esprit. C'est vraiment une équipe qui représente ce que voulait mettre en place Red Bull quand ils ont pris Salzbourg. Il y a des jeunes, des joueurs un peu plus d'expérience et surtout qui s'identifient à leur club. Il y a quelques joueurs qui sont présents au club qui sont arrivés à 14 ans, comme Schlager, le milieu de terrain, qui a fait toutes ses classes au Red Bull Salzbourg et qui aujourd'hui joue en équipe première. Tout ça, ça représente ce que Red Bull voulait mettre en place. Et justement, je pense que les joueurs savent jouer ensemble, développer sous le nouvel entraîneur un état d'esprit de gagnant que Red Bull n'avait pas encore vu à Salzbourg depuis qu'ils avaient acheté. Tout ça, ça a fait que Salzbourg en est là aujourd'hui.
L'effectif dans l'ensemble est quand même assez jeune, hein, voire même très jeune. Est-ce que l'on peut dire que la formation est à la base du projet du club, Quentin ?
Enfin, elle est venue un peu plus tard, un peu après que Red Bull ait racheté l'Austria. À la base, ils ont quand même fait venir des joueurs d'expérience comme Niko Kovac, qui avait une trentaine d'années, je crois, quand il est arrivé à Salzbourg en 2006 ou en 2007. Et ils ont lancé leur nouvelle académie en 2014. Bon, déjà, évidemment, ils avaient commencé le travail au niveau de la formation. Mais c'est surtout à partir de 2012, quand Ralf Rangnick est arrivé au club, que là, ça a pris une ampleur supérieure. Ils ont commencé à mettre en place une philosophie qui allait de 16 ans au professionnel. Et à partir de là, tout s'est lié. Depuis 2012, on voit un travail de fond exceptionnel. Et le club l'équipe professionnelle est en train de récolter les fruits de ce travail-là avec, comme tu l'as dit, une équipe très jeune et beaucoup de joueurs qui sont soit arrivés en formation, soit en post-formation, comme les Africains Samasekou ou Aïdara, contrairement à des Hannes Wolf, des Schlager et des joueurs comme Berisha, qui sont arrivés voilà, 14-15 ans, j'ai eu Peter Seider qui me disait qu'il avait entraîné Xaver Schlager à 14 ans. Voilà, c'est un peu ce style de joueur-là.
Oui, alors concernant l'académie, je pense que l'académie de Salzbourg, c'est la preuve que la formation est à la base même du projet. Parce qu'en plus, j'ai eu la chance de la visiter il y a quelques mois. Alors, il faut s'imaginer une espèce de complexe avec 6-7 terrains qui est absolument gigantesque et qui est situé dans les faubourgs de Salzbourg au pied des montagnes. C'est extraordinaire, c'est super moderne. Et j'avais rencontré à l'époque le directeur de la formation qui m'expliquait qu'ils ont vraiment voulu créer une structure d'élite qui est limitée à 180 joueurs, très exactement, qui sont répartis des U7 aux U19. Donc les U19, c'est vraiment la catégorie reine de cette académie, puisque c'est celle qui joue la Youth League et qui a la plus grosse présence à l'international. Et il m'expliquait que quand ils ont joué la finale de Youth League contre Benfica, il y avait 8 joueurs sur le terrain qui ont rejoint l'académie à partir des U15. Et sur le banc, ils en avaient 2 qui ont commencé en U10 et en U8. Donc il y a un vrai projet de mener ces joueurs jusqu'au plus haut niveau, depuis les plus basses catégories jusqu'à leur équipe réserve du FC Liefering, et ensuite après pour les lancer dans le grand bain professionnel.
Quentin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marco Rose? Est-ce qu'il s'est inscrit dans la continuité du travail d'Oscar Garcia ou est-ce qu'il était plutôt dans la rupture?
Marco Rose, déjà, c'est un entraîneur qui est made in Salzbourg. Il est arrivé en U16 et depuis les... Enfin, il est arrivé pour entraîner les U16, hein, il n'est pas à Salzbourg depuis ses 16 ans. Il est arrivé donc pour entraîner les U16, il a fait des U18. Donc les U18, il faisait également la Youth League, qui est l'équipe U19. Mais il n'y a pas d'équipe U19 dans les championnats autrichiens. À partir de cette saison, donc, il a pris l'équipe première. Et donc, contrairement à Oscar Garcia, il connaît la philosophie de jeu de Red Bull. Et il a pu la mettre en place cette année avec l'équipe première. Et évidemment, quand il joue avec des joueurs qui, eux aussi, connaissent la philosophie et qui sont là depuis plusieurs années dans le moule Red Bull, évidemment, ça... Tout est plus facile, donc on peut dire, je pense qu'il y a quand même. Enfin, Oscar Garcia était arrivé quand même avec. Quand on arrive chez Red Bull, on est quand même obligé de suivre des principes. Donc on ne peut pas dire que Marco Rose qu'il y a une vraie rupture, mais il y a quand même quelques changements, et notamment la plus de verticalité. Oscar Garcia est évidemment un ancien joueur du FC Barcelone, donc il avait quelques principes de jeu catalan. Alors que Marco Rose est plutôt made in Salzbourg, et il y a beaucoup plus de verticalité, beaucoup plus de pressing et beaucoup plus d'intensité dans tout ce que fait son équipe.
Bah, en fait, comme l'a très bien dit Quentin, c'est un joueur estampillé Red Bull. Il a beau avoir une toute petite expérience à Mayence, c'est d'ailleurs le club dans lequel il a joué pendant 6 ans en tant que défenseur central, si je ne me trompe pas. Et où il a eu comme coach un certain Jürgen Klopp, qui lui a insufflé cette espèce d'esprit de gegenpressing qui est devenu un peu son schéma signature. Et Marco Rose a toujours gardé cette philosophie de jeu très offensif. Il expliquait dans la presse que même quand son équipe est en train de perdre, il faut toujours aller chasser le ballon, toujours avoir la possession, toujours, toujours se jeter dans toutes les batailles, jamais subir le jeu. Et si on résume la philosophie du style de football Red Bull, c'est un style jeune, intense, offensif et qui est censé mener à de la réussite. Et je pense que Marco Rose, à ce niveau-là, se fond parfaitement dans le moule Red Bull, puisque depuis qu'il est arrivé en 2013, il a cumulé 145 matchs, et sur ces 145 matchs, il a perdu que 9 fois, toutes catégories confondues, et il a quand même un palmarès de champion d'Autriche U16, champion d'Autriche U18, et l'année dernière, il a donc remporté la Youth League, qui était plus ou moins le climax de sa carrière d'entraîneur de jeunes. Donc quelque part, aujourd'hui, il ne fait que prolonger son style de coaching, mais au sein d'une équipe professionnelle.
Et justement, quel est son schéma de jeu préférentiel? Est-ce qu'il a un schéma tactique qu'il utilise souvent?
Alors généralement, c'est le 4-4 de losange, donc le 4-1-2-1-2. Il y a beaucoup de jeunes, mais il n'y a pas un effectif très pléthorique. Donc il ne peut pas faire tourner comme il le voudrait, je pense, souvent. quand il essaye de faire tourner, comme lors des derniers matchs pour se préparer contre Marseille, et il y avait quand même 4 ou 5 joueurs généralement titulaires qui jouaient. En gros, il y a un groupe de 15-16 joueurs avec, qui l'utilisent, et à partir de là, il fait sa compo généralement en 4-4 de losange.
D'accord, donc Julien, on va enchaîner avec toi. Parmi les questions que nos followers nous ont posées sur Twitter, il y en a une qui est revenue, qui normalement, et c'est logique, intéresse beaucoup les supporters marseillais. Est-ce que tu pourrais me citer les joueurs clés de cette équipe de Salzbourg ?
Alors, il y en a beaucoup, et à mon avis, Quentin aura aussi beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, puisqu'il suit plus l'Autriche que moi. Mais on a pas mal parlé d'Yadié Samasekou, qui est un milieu défensif qui est assez réputé pour créer du jeu. Pas forcément beaucoup marqué, mais en tout cas pour aller au contact, pour distribuer des passes décisives. Je ne sais plus à combien il en est cette saison, mais c'est plutôt pas mal. Sinon, dans les joueurs qui se sont illustrés en Youth League, on a bien sûr Xavier Schlager. Xavier Schlager qui a terminé, je crois qu'il était meilleur passeur de la dernière Youth League avec 5 passes décisives. Et puis devant, on a Hannes Wolf et Berisha qui ont marqué 7 buts chacun en Youth League. Et puis pour rester dans le secteur offensif, on a l'international israélien Mounas Dabour qui est arrivé du Grasshopper il y a quelques années et qui se caractérise par sa force de frappe, des frappes très puissantes, très précises, tellement puissantes d'ailleurs que c'était dimanche dernier, il n'a pas marqué contre Altar, mais il a pété le nez du gardien adverse en lui envoyant un ballon en pleine gueule. Donc ça donne une idée de sa puissance de frappe. Après, devant, on a vu des garçons intéressants comme Ichan Wang, un Coréen, qui avait planté 2 buts contre Nice l'année dernière en Europa League. On avait vu aussi Takumi Minamino, un Japonais qui est arrivé lui aussi en post-formation. Et puis, on a aussi celui qui a donné la passe décisive à Jérôme Onguene dimanche toujours contre Altar, qui est l'Allemand Reinhold Diabo, formé à Cologne, et qui est assez dangereux, qui a clairement faim, et qui fait aujourd'hui partie des cadres de Marco Rose dans cette équipe de Salzbourg. Dans les autres joueurs assez affamés sur le terrain, on a Amadou Aïdara qui, à l'époque où il avait gagné la Youth League avec les U19, s'était déjà lancé en équipe première parce qu'il avait joué un match de coupe 3 jours avant, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on voit que la progression est très 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 rapide puisqu'il est devenu un des cadres de cette équipe.
Et toi, Quentin, tu valides les noms suggérés par Julien ou tu en as d'autres en tête ?
Ouais, je partage ce qu'a dit Julien. Je ne vais pas dire le problème de Salzbourg, mais c'est une équipe vraiment très homogène, de laquelle il est assez difficile de retirer des individualités. C'est pour ça que Julien on a donné pas mal. Moi, je suis un grand fan de Yabo. C'était un des plus grands espoirs du football allemand. Il écrasait les... Il était en équipe d'Allemagne chez les jeunes et il écrasait les tournois, les Euro U17 et toutes ces compétitions-là. Et il s'est un peu perdu. L'année dernière, Oscar Garcia l'avait blacklisté. Il était parti en prêt à Bielefeld sur la deuxième partie de saison. Et il avait vraiment tout explosé en deuxième division allemande. Et il continue un peu sur cette lancée cette saison avec Salzbourg. Je trouve que c'est un super joueur. Il est très bon sans ballon, très bon avec le ballon, très percutant au milieu. C'est quelqu'un qui peut casser des lignes par le dribble ou par la passe. Je le trouve très très intéressant. Julien a cité Amadou Aïdara, évidemment. C'est un peu le nouveau Naby Keïta, qui je pense ira à Leipzig soit cet été, soit l'été d'après plutôt. Julien a plutôt fait le tour. Je rajouterais peut-être André Ramalho, qui est arrivé cet hiver en provenance de Leverkusen. Il avait déjà fait une pige à Salzbourg, donc il connaît bien le club, et il a apporté une vraie expérience et une vraie stabilité derrière, où c'était peut-être le point faible de Salzbourg avant la trêve.
D'accord, bon, ce que je retiens, moi, c'est que c'est un groupe quand même, une équipe surtout très homogène, qui n'a pas une ou deux individualités particulièrement à surveiller. Et du coup, Quentin, est-ce que tu pourrais, de manière assez schématique, je sais que ce n'est pas aussi simple que ça, me citer en gros le point fort et le point faible, ou les points forts et les points faibles de Salzbourg, hein?
Le point fort, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'état d'esprit. Ils aiment jouer ensemble et ça se ressent quand on regarde les matchs. Il y a une vraie cohérence tactique. Tout le monde se met au service du collectif, quoi. C'est vraiment une vraie équipe, comme je pense l'est actuellement l'Olympique de Marseille. Donc ça ferait une belle opposition de style plutôt similaire. Après, les points faibles, je dirais les côtés. Évidemment, chez Red Bull, les latéraux doivent être très offensifs. Ils le sont évidemment à Salzbourg. Et il y a pas mal d'espace à prendre, notamment avec le 4-4 de Losange, qui est assez resserré dans l'axe. Et justement, il y a pas mal d'espace à prendre sur les côtés face à des latéraux qui sont relativement lents pour des joueurs de ce poste. Et à ce niveau-là, des joueurs comme Payet et Thauvin pourraient avoir des cartes à jouer.
Julien, tu partages l'analyse de Quentin ?
Complètement, et je rajouterais juste pour les points faibles, le calendrier, parce que là, les joueurs de Salzbourg en sont à 55 matchs depuis le début de la saison contre Marseille. Là, ils vont jouer leur 56e match de la saison, et je pense que c'est un point qu'il faut prendre en compte, parce que ils ont beaucoup plus joué que les Marseillais, et même si le niveau du championnat autrichien est moindre par rapport à celui de la Ligue 1, d'autant plus que Salzbourg roule à peu près sur la concurrence. Il faut prendre en compte cette fatigue qui s'est accumulée avec le temps, et c'est probablement pour ça que Marco Rose a un peu fait tourner, mais comme l'a dit Quentin, tout en gardant ses cadres dans le 11 de base. Mais il faudra évidemment prendre ça en compte par rapport à une équipe de Marseille qui est probablement un peu plus fraîche au niveau du physique.
Et je rajouterai un autre point faible qui peut être considéré comme un point fort pour certains, c'est l'expérience à ce niveau-là de la compétition.
Oui, exactement.
Marseille a beaucoup d'internationaux, qu'ils soient français ou autres, alors que, comme on l'a dit, Salzbourg, c'est très très jeune. C'est la première fois qu'ils arrivent à ce stade de la compétition, donc peut-être que l'ambiance du Vélodrome pourrait leur faire un peu basculer dans la panique, une fois si par hasard ils seraient menés très rapidement. Ça pourrait faire la différence d'entrée de jeu.
Ouais, d'autant plus que là, on a appris aujourd'hui que le Vélodrome allait être sold out pour la rencontre. Donc ça risque de pas mal changer de l'espèce de cathédrale vide qu'est la Red Bull Arena, ou même le stade de Nyon dans lequel le Red Bull Salzbourg a gagné la Youth League et qui est peuplé de quelques centaines de curieux qui viennent voir jouer les équipes de jeunes, en sachant que la majorité du public, c'est quand même principalement des scouts.
Je rajouterai également un autre point fort, c'est leur capacité à marquer des buts, notamment à l'extérieur, puisqu'ils en ont mis deux en Espagne, à San Sebastian, deux au Borussia Dortmund, on parlait de grosse ambiance, bon là je pense que ça a été, et deux contre la Lazio à Rome, où ça leur a permis d'avoir un certain avantage pour le match retour, où ils savaient vraiment ce qu'ils devaient faire par rapport au résultat du match aller. Et quand on marque deux buts à domicile, c'est difficile ensuite pour l'adversaire de faire pareil au match retour.
Au tour précédent, l'OM a éliminé Leipzig, qui appartient aussi au groupe Red Bull. Julien, quelle est la politique du groupe de boissons énergisantes par rapport à ces deux clubs concrètement ?
Bah, en fait, j'ai pas, contrairement à ce qui peut être avancé, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un club qui bénéficie des faveurs du groupe par rapport à l'autre. Parce que Red Bull, faut pas l'oublier, c'est un club autrichien. C'est une entreprise autrichienne, surtout. Le Red Bull Salzbourg est un club autrichien. Et pour eux, c'est très important, pour une question d'image, de garder un ancrage local. Clairement, à travers leur académie, qui leur a coûté plus d'une centaine de millions d'euros, même si c'est difficile d'avoir le chiffre exact, parce que Red Bull communique très peu en ce qui concerne l'argent. C'est un projet, ça a été leur premier projet dans le foot. Le Red Bull Salzbourg, c'est le grand virage du passage de Red Bull des sports individuels au sport collectif. Et aujourd'hui, leur académie, elle forme les footballeurs et les hockeyeurs d'ailleurs de demain, parce qu'ils ont aussi une école de hockey sur glace. Mais mis à part le fait qu'ils sont très fortement tournés vers l'international parce qu'ils ont un réseau de scouts absolument énorme, ils ont quand même quelques noms autrichiens qui sont clairement appelés à garnir les rangs de la Nationalmannschaft autrichienne dans les années à venir. Et pour eux, ils ont tenté de se développer dans le monde entier pour asseoir la stratégie internationaliste de la marque Red Bull. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé une académie au Ghana qui a fermé depuis, qu'ils en ont créé une au Brésil, qu'ils en ont créé une aux États-Unis pour l'Amérique du Nord. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on ait un Red Bull China ou un Red Bull Japan, ce serait complètement plausible. Et donc l'Allemagne, pour eux, c'était une manière de mettre un pied dans un championnat majeur, parce que l'Autriche, c'est très sympa comme laboratoire, on peut expérimenter plein de trucs au niveau de la formation, mais par contre, pour faire du fric, pour avoir de la visibilité, il faut quand même avoir un pied dans un championnat du Big Five. La Bundesliga était la meilleure opportunité pour des questions culturelles, linguistiques, etc., etc., et on en avait parlé l'année dernière dans le podcast qui était consacré au RB Leipzig. Ils ont mis une enveloppe de 100 millions sur la table. Ils voulaient monter en Bundesliga en 8 ans. Ils ont atteint leur objectif en 7 ans. Voilà. Aujourd'hui, clairement, il y a probablement, au niveau de l'image, un peu plus d'efforts qui est consenti pour Leipzig parce que la Bundesliga, c'est plus bankable et plus sexy que la Bundesliga autrichienne. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le RB Salzbourg est laissé de côté, d'autant plus que cette demi-finale contre Marseille est probablement la meilleure publicité qui pouvait leur arriver, parce qu'on ne l'a pas dit en début d'émission, mais il ne faut pas oublier que Salzbourg, depuis sa création en 2005, a eu 10 opportunités pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils ont été éliminés 10 fois. Et malgré ça, il n'a jamais été question de changer l'investissement de Red Bull.
Et Quentin, est-ce que tu es d'accord avec ceci? Selon toi, il n'y a pas de hiérarchie entre Salzbourg et Leipzig pour Red Bull?
Moi, je dirais quand même qu'ils privilégient assez logiquement, comme l'a dit Julien quand même, il y a une certaine logique à privilégier Leipzig pour les faire progresser un peu plus vite dans un championnat un peu plus huppé. Maintenant, il y a quand même un certain paradoxe à voir que quand Salzbourg stagnait au niveau européen, Leipzig continue à progresser et maintenant que Leipzig est en Bundesliga et commence à galérer un peu, le Red Bull Salzbourg tape une performance exceptionnelle en coupe d'Europe, c'est assez paradoxal.
Effectivement, et d'ailleurs c'était la première fois que les deux équipes se retrouvaient sur le devant de la scène européenne et ça avait posé quelques problèmes à l'UEFA. Du coup, il me semble donc que Salzbourg a dû changer de nom pour les compétitions européennes, c'est ça, Julien?
Ouais, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un truc qui ne peut arriver qu'en Autriche, un championnat où il y a un article à lire là-dessus sur le site Tout le monde s'en fout, sur le naming des clubs en Autriche, où autant Red Bull a dû trouver une petite parade absurde pour changer la signification des lettres RB en passant de Red Bull à Rasenballsport pour se mettre en conformité avec la législation allemande. En revanche, en Autriche, on a des clubs, voire même des clubs historiques, qui portent des noms de marques. Donc Red Bull, c'est l'exemple le plus connu, mais leur adversaire de dimanche dernier, Rheindorf-Altach, il s'appelle Cashpoint Rheindorf-Altach, qui est une société de Paris. Donc à ce niveau-là, c'est un pays qui n'a pas peur du ridicule à bidouiller les noms, à les changer d'une saison à l'autre en fonction des exigences financières ou là, dans ce cas très précis, des exigences légales, puisque effectivement l'UEFA n'autorise pas deux clubs qui dépendent officiellement du même investisseur à participer à la même compétition. Et c'est pour ça qu'il y a eu un vrai débat pour savoir quel club Red Bull allait privilégier. Quentin l'a souligné très justement, étant donné que la Bundesliga est plus hype que l'Autriche, que le RB Leipzig jouait la Ligue des Champions, ils ont logiquement laissé le blason Red Bull et la semi-appellation Red Bull sur le maillot de Leipzig, puisque Salzbourg jouait l'Europa League, donc c'était un cran en dessous. Et c'est pour ça qu'ils ont que le club qui s'appelle FC Red Bull Salzbourg en Bundesliga change de logo, de maillot, de couleur en Coupe d'Europe pour s'appeler le FC Salzbourg.
Donc là, il faut bien avoir en tête que jeudi, au Vélodrome, ils seront donc le FC Salzbourg et non pas le Red Bull Salzbourg. C'est pas toujours évident à se mettre en tête. Et du coup, Quentin, une question d'un follower qui nous demandait si finalement le RB Salzbourg était meilleur que sa grande sœur Leipzig. C'est difficile quand même de répondre à cette question. Qu'est-ce que t'en penses?
Je dirais que Salzbourg a des qualités que Leipzig n'a pas et inversement. Je pense que Leipzig a les meilleures individualités de loin. Des Timo Werner, des Forsberg, des Upamecano, des Naby Keita et compagnie. Salzbourg n'a pas ça. Par contre, Salzbourg a cette année un état d'esprit, comme je l'ai dit et je le répète depuis le début du podcast, un état d'esprit qui fait qu'ils sont là aujourd'hui et que Leipzig a été éliminé. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre les deux équipes. Après, il faut aussi dire que Leipzig avait un calendrier beaucoup plus chargé que Salzbourg, puisqu'ils sont encore en course pour jouer la Coupe d'Europe, pour se qualifier plutôt pour la Coupe d'Europe l'année prochaine, et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire tourner en championnat. Mais quand même, je pense que c'est ça, c'est l'état d'esprit qui fait la différence, et le jeu en équipe, alors que Leipzig a un peu plus de mal cette année, fait trop confiance à ses individualités par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière, par exemple.
Une autre question d'un follower, prénommé Lucas. Quelle est la place du Red Bull Salzbourg dans le football autrichien? Bon, vous l'avez dit clairement, aujourd'hui, Salzbourg domine de manière assez nette le championnat autrichien. C'est ça, Julien?
Ouais, alors là, j'ai le tableau sous les yeux. Il reste 5 journées, Salzbourg est premier avec 71 points, c'est-à-dire 9 points d'avance sur son dauphin du Sturm Graz, qui avait d'ailleurs pourtant très bien commencé la saison, et on s'était dit, peut-être qu'enfin un club va mettre fin à la domination du RB. C'est pas forcément le club qu'on attendait, parce que dans l'imaginaire collectif, derrière Salzbourg, on a les clubs historiques de Vienne, que sont le Rapid et l'Austria. Mais là, Graz a fini par rentrer dans le rang, donc pointe à 9 unités derrière Salzbourg. Et honnêtement, il reste 5 journées sans trop de matchs pièges. Ça m'étonnerait que Salzbourg roule pas sur son 5e titre consécutif, ce qui, je crois, est un record encore jamais atteint dans l'histoire du championnat autrichien.
Quentin, toi qui suis le championnat autrichien d'assez près, tu confirmes qu'il n'y a pas vraiment de rival à l'heure actuelle pour Salzbourg?
Non, bah comme Julien le disait, il y avait le Sturm qui était encore à la trêve à je crois un petit point du RB, et puis leur entraîneur est parti prendre la sélection autrichienne. Ils ont pris Heiko Vogel qui entraînait Bâle avant, et la mayonnaise n'a pas pris tout de suite. Ils ont perdu des points et maintenant c'est foutu. Et comme le disait Julien, Salzbourg bénéficie aussi de l'incapacité de leurs adversaires à trouver de la régularité sur toute une saison. Il y a quelques fois où l'Austria et le Rapid enchaînent 5 victoires consécutives, et puis ensuite ils perdent des points bêtement contre des équipes moins bien classées comme l'Admira ou Altar, comme on en parlait tout à l'heure. Et à partir de là, c'est des points que Salzbourg ne perd jamais, donc évidemment ils font la différence. Et comme Julien l'a dit, 5e titre consécutif en championnat, et ils pourraient enchaîner avec un 3e doublé consécutif, je crois, puisqu'ils sont en finale de la Coupe d'Autriche. Ils ont battu Mattersburg au tir au but mercredi dernier, je crois.
D'accord, donc c'est pour eux, ça se passe plutôt bien sur la scène nationale. Et il faut aussi rappeler, faisons un petit point d'histoire, que Red Bull a racheté littéralement l'Austria Salzbourg, le club historique de la ville, donc c'était en 2005, avant de le renommer donc Red Bull Salzbourg. Julien, comment les supporters ont réagi après ce changement, ce choc quelque part? Est-ce qu'ils étaient plus dans l'acceptation ou plus dans le rejet?
Bah, alors déjà, il me semble qu'il faut préciser que quand Red Bull a racheté l'Austria Salzbourg, l'Austria Salzbourg s'appelait déjà plus Austria Salzbourg. J'ai évoqué ce naming des clubs qui est complètement outrancier. Et je crois qu'au moment où ils rachètent Austria Salzbourg, le club s'appelle Casino Salzbourg.
Ah, c'est pas mal.
Et c'était d'ailleurs pas leur premier changement de nom, parce qu'ils sont passés par plein de phases différentes. Et quand Red Bull arrive en 2005, il y a une volonté claire de faire table rase du passé. Dans le sens où, dans l'esprit de Red Bull, il faut créer un club qui se fonde parfaitement avec l'identité de Red Bull et Contrairement, par exemple, à ce qui avait été fait avec, ce propriétaire du FC Wimbledon qui avait déménagé son club à Milton Keynes en se barrant avec le palmarès, le propriétaire Dieter Mateschitz, de Red Bull, ne voulait pas du palmarès de l'Austria. Il préférait recommencer complètement à zéro pour éviter de se trimballer une histoire qui n'était pas la leur. Le problème, c'est que la fédération autrichienne leur avait dit, c'est simple, soit vous acceptez de reprendre le palmarès de l'Austria, soit vous commencez en 7e division. Donc pour des raisons évidentes, ils ont préféré prendre le palmarès de l'Austria. Et donc du coup, tous les titres qu'ils ont gagnés au XXe siècle, la finale de la Coupe UEFA de 1994, la finale de la Coupe Mitropa en 71, tout ça, c'est des titres qui officiellement appartiennent au Red Bull Salzbourg alors que le club n'existait pas. Et pour revenir à ta question de l'acceptation ou non par le public, étant donné que l'Austria Salzbourg est une équipe qu'on appelle dans le monde germanophone une équipe de tradition, ça a été très très mal pris en fait. Mmh. Dans le sens où renommer le club, bon, pourquoi pas, ils l'ont accepté, ça n'a pas fondamentalement changé l'image qu'il avait. Mais par contre, Red Bull, changer le nom, c'était une chose, mais après, il a fallu changer les couleurs. À ce niveau-là, il y a une anecdote assez connue sur le clash qu'il y avait entre la direction et les supporters. Quand les premières années où Red Bull reprend le club, il décide de changer les couleurs traditionnelles qui sont le violet et le blanc par le rouge et le blanc qu'on connaît actuellement. Les supporters ne sont pas d'accord. Et tu as un combat qui s'engage entre la direction et certains groupes ultra, et ils obtiennent comme maigre compensation que le logo Adidas qui est brodé sur les maillots soit violet, et que le gardien puisse porter des chaussettes violettes. Et ça, c'était la seule concession que Red Bull a bien voulu faire pour laisser une petite trace du passé, mais ça a été plus pris comme du foutage de gueule qu'autre chose, l'immense majorité des supporters historiques, donc les ultras, ceux qui font de l'animation en tribune, qui font les déplacements, etc., etc., ont préféré claquer la porte.
Et maintenant, où est-ce qu'on en est, Quentin ? Est-ce qu'il y a quand même un petit engouement autour de cette équipe ou pas tant que ça, finalement ?
Non, pas tant que ça. Il y a vraiment, c'est qu'en Coupe d'Europe qu'il y a une certaine émulation autour de ce club. Sinon, il joue régulièrement dans un stade très peu garni. Là, contre la Lazio et le Borussia, c'était vraiment assez sympa, il y avait de l'ambiance. Par contre, il y avait ce que les Allemands appellent des Klatschpappen. C'est ce que les supporters secouent pour faire du bruit, là, le truc en papier ou en plastique. Et évidemment, ça donne une ambiance très anglaise, très plastique, quoi. Comme le matériau du papier, des Klatschpappen.
Ouais, donc c'est plutôt bon enfant, d'une certaine manière.
Ouais, c'est ça, c'est un public familial. Il y a une frange d'ultra, mais c'est pas... Voilà, c'est pas, il n'y a pas des milliers et des cents, quoi. C'est vraiment une petite tranche d'ultra.
Et du coup, je pense
dire sur les ultras, qu'on retrouve un peu l'ambiance qu'il y a à Leipzig. C'est-à-dire que c'est des supporters qui sont intéressés par le délire ultra, c'est-à-dire porter des drapeaux, chanter, se déplacer pour les matchs à l'extérieur, mais qui ne veulent pas rentrer dans le délire plus conflictuel, c'est-à-dire avec... des relations menaçantes envers des équipes rivales. Bon, pour eux, c'est pas compliqué parce que toutes leurs équipes sont leurs rivaux vu que tout le monde les déteste. Se battre, ça, c'est des trucs qui les intéressent pas non plus forcément. Porter certains styles de vêtements, voilà, c'est pas trop le délire là-bas non plus. Et il en résulte que, quand tu vas voir un match du RB Salzbourg standard, donc typiquement dimanche dernier contre Altar, alors que c'est un horaire qui est quand même plutôt football friendly dans les pays germanophones, donc en milieu d'après-midi, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne dans le stade. Ça sonne complètement creux et le COP n'est même pas rempli. Le COP n'est même pas rempli. Et le stade sonne tellement vide qu'il y a quelques mois, la direction a pris une décision qui est quand même assez lourde de sens. C'est qu'ils veulent poser des panneaux amovibles devant les tribunes du premier anneau pour réduire la capacité qui est actuellement de 30 000 places à plus ou moins 19 000, histoire de créer une ambiance un peu plus feutrée et faire en sorte que le stade ne résonne pas aussi vite comme c'est le cas actuellement.
Vous me faites comprendre que les tribunes sont quand même assez rarement copieusement garnies, ce devrait quand même être le cas, je suppose, pour cette demi-finale retour.
Non, je pense qu'il n'y aura pas de Marseillais au match retour, je crois bien, si j'ai bien compris.
Exact.
Mais si les Marseillais avaient été là, ils auraient mis l'ambiance dans le stade, c'est sûr.
Et pour info, le stade sera plein. Il faut quand même préciser que le stade a été plein également pour Dortmund et pour la Lazio. Et c'était, je crois, de mémoire, la première fois que le RB Salzbourg faisait un match sold out pour le club, en fait. Parce que je crois que le stade a déjà été plein dans le cadre de l'Euro 2008, mais jamais pour un match du RB Salzbourg. Et ça s'est seulement produit face à Dortmund et face à la Lazio. En revanche, c'est vrai qu'on risque de déplorer le manque d'opposition en tribune, puisque comme l'a dit Quentin, donc les Marseillais sont interdits de déplacement pour le match retour. En revanche, moi j'avais eu la chance d'être présent au match de groupe, au match de groupe qui était désespérément vide. Je crois qu'on avait un petit 12 000 personnes, un truc comme ça, donc pour un stade de 30 000, c'est quand même pas énorme. Par contre, le parquage marseillais était plein. Donc là, c'était 700 personnes et on connaît la ferveur des Marseillais quand ils se déplacent en Coupe d'Europe. Ils étaient clairement à la maison.
J'ai une dernière question d'un follower qui me demande en fait de savoir comment Marseille est perçu du côté de Salzbourg. Il aimerait savoir si les Autrichiens sont confiants avant cette demi-finale. Julien, est-ce que tu as pu faire une petite revue de presse ?
Alors, ce que j'ai lu dans la presse, c'est très plat, c'est très calme, il n'y a pas forcément d'animosité. Quentin l'avait souligné un peu plus tôt dans ce podcast, on ne sent pas une espèce d'union sacrée derrière le dernier club autrichien présent en Coupe d'Europe, comme on essaye de nous le survendre en France. En revanche, pour juste dire un petit mot sur la ferveur populaire, il y a notre ami Pierre Vuillemot qui a publié aujourd'hui l'interview d'un rappeur autrichien fan de Marseille qui expliquait que inconsciemment, les gens qui ne sont pas contre le RB Salzbourg seront pour le RB Salzbourg. Il n'y aura pas vraiment de neutres pour ce match-là. Il y aura quand même pas mal de gens qui vont encourager ce club-là parce que Salzbourg en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est l'Autriche en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est clairement le seul club à l'heure actuelle en Bundesliga autrichienne qui est capable de faire une telle performance. Et donc, ça explique déjà pourquoi le stade sera plein et pourquoi, quelque part, il y a une certaine ferveur qui va se créer autour de ce match. Après, concernant Marseille, c'est marrant parce que je pense que la réaction en Autriche est la même qu'en France, c'est-à-dire que c'était le meilleur tirage possible. Si tu balances des noms comme l'Atlético Madrid ou Arsenal, clairement en Autriche on aurait eu beaucoup plus peur de tirer ces noms-là que l'Olympique de Marseille. Après, de ce que j'ai pu lire en termes de déclarations dans la presse, les gens savent que le Marseille qu'ils vont affronter en demi-finale, c'est pas le Marseille qu'ils ont affronté en phase de groupe. Et Dieu sait qu'en phase de groupe, ils partaient déjà perdants dans leur tête. Et quand ils ont gagné au match aller, qu'ils ont tenu le nul au match retour au Vélodrome, ils se sont dit qu'il y avait clairement un truc à jouer. Sauf qu'entre-temps, Marseille s'est clairement réveillé. Marseille est dans une forme qui n'a rien à voir avec celle qu'avait le club en début de saison. Et aujourd'hui, ils se disent que ça risque d'être difficile. Certains, sur un ton très politiquement correct, refusent de se considérer favoris histoire de ne pas paraître trop arrogant. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'en lisant certaines analyses en Autriche, Marseille reste l'équipe la plus prenable des trois restantes.
Ça marche. Et justement, pour terminer, je vais vous demander de vous mouiller, messieurs, de me proposer un pronostic pour cette double confrontation. Donc, je vais commencer avec toi, Quentin. Qu'est-ce que tu penses pour cette double confrontation ? Qui va se qualifier ?
Je dirais Marseille, grâce à leurs individualités.
Et comment est-ce que tu vois le match aller, le match retour ? Comment est-ce que tu penses que ça va se goupiller, tout ça ?
Je pense que Marseille a les capacités d'aller marquer à Salzbourg, comme Salzbourg a les capacités de marquer à Marseille. Après, je vois bien, ça serait pas impossible qu'il y ait deux matchs nuls, un partout et 2-2, par exemple. Je pense que c'est des équipes assez similaires l'une de l'autre, qui ont les mêmes qualités et les mêmes défauts. À partir de là, Je pense que ça va être deux rencontres très très serrées, mais que Marseille, grâce à leurs individualités, va pouvoir passer en finale.
D'accord. Et toi, Julien, quel est ton pronostic?
C'est difficile, mais je pense que Marseille pourrait gagner 2-1 à l'aller, à la maison, clairement poussé par son public, qui fera évidemment la différence. Mais avec leur friabilité défensive, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en prennent un. Allez, disons Mounas Dabour pour être original. Et au retour, je verrais bien un match nul. Je verrais bien un match nul, mais avec deux buts marqués, donc un petit un partout et Marseille qui passe à la différence de buts.
Vous êtes plutôt optimiste pour Marseille, même si vous savez que pour eux que ça risque d'être très très compliqué. Très bien, écoutez messieurs, je pense qu'on a
et
fait...
Et on le sait, dans le football tout est possible.
Oui, bon, évidemment, ça c'est un poncif bien, bien connu et reconnu.
C'est important de terminer là-dessus.
Très bien, je le note.
De rappeler qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres.
Voilà, et l'essentiel c'est les 3 points, même si là c'est la qualification, donc il n'y aura pas de 3 points. C'est noté, merci beaucoup pour toutes vos interventions, c'était très intéressant. Je n'ai plus qu'à vous dire, écoutez, bonne journée à vous et à bientôt.
Merci Raph, à bientôt, salut Quentin.
Merci à tous et à bientôt.
C'est la fin de ce 11e podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.